France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Aujourd'hui, personne ne peut plus ignorer qui fut Germaine Tillion, ignorer ce que fut son action de résistante au sein du réseau du Musée de l'Homme, et ce, dès les premiers jours de l'occupation. On sait aussi ce que fut son travail d'ethnologue en Algérie, et durant la guerre d'indépendance de ce pays, ses interventions auprès des autorités morales et politiques de métropole pour que cessent la torture et les exécutions. En 1975, Germaine Tillion était au micro de Claude Frère pour une série de 5 entretiens. Dans le deuxième d'entre eux, elle témoignait de ce qu'avait été sa captivité au camp de Ravensbrück. Dans cette émission, elle disait combien le totalitarisme nazi, par sa nature même, avait dépassé en monstruosité tous les autres systèmes politiques répressifs, tout en affirmant sa conviction qu'aucun peuple n'était à l'abri du mal. Un mal dont elle parlait ainsi en 2007, un an avant sa disparition à plus de 100 ans. Au terme de mon parcours, je me rends compte combien l'homme est fragile et malléable. Rien n'est jamais acquis. Notre devoir de vigilance doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment, il couve partout, et nous devons agir au moment où il est encore temps d'empêcher le pire.
Entretien avec Germaine Tillion par Claude Frère. Deuxième entretien, Ravensbrück. Lectrice Nathalie Nerval.
Mon expérience de la guerre représente une énorme coupure. En fait, je me trouve donc quittée en 1940 une population dans laquelle je ne comptais que des amis, où j'avais une connaissance très, très précise du niveau de vie, très précise des problèmes quotidiens. Je rentre en France, ma dernière mission se terminait le 30 mai 1940. Bon, je rentre en France le 30 mai 1940 et je ne savais rien. J'ai appris les catastrophes, le désastre français. La première personne qui m'en a parlé est la femme d'un garde forestier. Un peu plus tard, j'ai eu d'autres détails en arrivant à Arras. Je suis allée ensuite à Constantine et c'est un ami algérien, instituteur, qui m'a appris le reste. Il avait un appareil de radio et je nous vois encore, lui, sa femme et moi, écoutant le discours de Paul Reynaud à la radio. Je suis rentrée en France et je dois dire que ça, c'est une autre question dont tu... Enfin, disons que j'ai fait partie des gens qui ont trouvé insupportable et l'occupation allemande et qui n'ont pas eu d'autre idée tout de suite que celle de contrer.
Est-ce que vous pensez que ça a quand même un rapport avec votre tempérament d'ethnologue? Est-ce que, pensant à un peuple occupé par un autre peuple, ça vous a paru particulièrement insupportable parce que vous étiez aussi ethnologue?
C'est plus tard que ça m'a paru ainsi. Si vous voulez, je veux dire que mon expérience de l'occupation allemande m'a sensibilisée à certaines attitudes et certaines conséquences du rapport franco-algérien. Mais oui, ça m'a sensibilisée ensuite. Mais mon expérience de l'Algérie, à ce moment-là, était une expérience qui était une expérience tout à fait amicale. Moi, je n'avais aucun esprit de domination. Je veux dire que ça ne m'effleurait même pas. J'avais une très grande confiance dans les gens que je rencontrais. Eux-mêmes avaient confiance en moi. Je ne réfléchissais pas énormément à ce problème de la politique de l'État et du pouvoir, etc., etc. Ce sont des problèmes que je me suis posé plus tard. Quand l'occupation allemande Je dirais au contraire que c'est, oui, dans un certain sens. Je pense que le fait d'être ethnologue, cela vous sensibilise à ce qu'on appelle une personnalité ethnique. Et dans ce domaine-là, j'étais moi, en tout cas, tout à fait disposée à être sensibilisée du côté de la personnalité ethnique française. J'ai toujours été très sensible à cette personnalité-là. Et j'ai toujours eu un très grand attachement aux vieilles traditions françaises et à ce qu'il y a de personnel dans la France.
Le camp de Ravensbrück dura un peu plus de 5 ans, de 1939 à avril 1945. Comme chaque nouvelle arrivante recevait un numéro imprimé et cousu sur sa manche, il était facile de savoir au jour le jour combien de prisonnières étaient passées par le camp. Un peu avant la libération, m'avait signalé un numéro 115 000. Mais dans les toutes dernières heures, une prisonnière m'a dit avoir vu un numéro 123 000. Il y avait parfois quelques libérations de prisonnières allemandes, mais en petit nombre et rarement. D'autre part, quelques prisonnières, beaucoup plus nombreuses, ont été numérotées 2 fois. Un tableau chronologique donnera une idée de la circulation des prisonnières. On y voit que de mai 1939 à mai 1942, donc en 3 ans, le camp a reçu environ 10 000 femmes. D'août 1942 à août 1943, donc en 1 an, il en reçut 9 000, plus de 2 fois plus. D'août 1943 à août 1944, 36 000, près de 10 fois plus. À partir de ce moment, le rythme des arrivées est voisin de 10 000 par mois.
Il faut bien vous représenter qu'un camp de concentration, c'est 1 000 camps de concentration superposés. En fait, il y a des différences de conditions extraordinaires d'un bloc à l'autre et d'une ancienneté à l'autre. Par exemple, une prisonnière qui est là depuis 3 ou 4 ans et qui a pu survivre 3 ou 4 ans, elle a acquis une espèce de défense, de ruse en quelque sorte, pour échapper à la mort, disons les choses comme elles sont. Or, il se trouve que les prisonnières les plus anciennes à Ravensbrück étaient les Tchèques, les Polonaises et les Allemandes. Les plus anciennes étant évidemment les Polonaises d'abord, les Allemandes ensuite, et les Tchèques en dernier. Et puis bien longtemps après, les Françaises. C'était déjà une raison pour laquelle les Françaises étaient en position de faiblesse. Il y avait encore une autre raison. Cette autre raison, c'est que les Françaises, en général, apprennent l'anglais. Et les Polonaises et les Tchèques parlaient beaucoup plus souvent l'allemand que nous. Or, le fait de savoir l'allemand était aussi une protection relative. Et la troisième chose était que les Françaises étaient souvent il y avait beaucoup de citadines. Et peut-être un peu plus fragiles, c'est vrai. Tout au moins, et nous n'avons très rarement reçu des colis. Les Polonaises et les Tchèques recevaient quelques colis. Les Françaises, très rarement. Et les Françaises NN, comme moi-même, n'ont jamais reçu aucun. Ce qui fait qu'il y avait un affaiblissement physiologique extrêmement. Et puis il y avait aussi le fait que les Françaises étaient particulièrement révoltées, peu disciplinées, disons. Disons que nous sommes un peuple un peu anarchiste, par nature.
Mais les Françaises étaient opprimées aussi depuis moins longtemps, d'une certaine manière.
C'est possible aussi que nous n'étions pas, bien sûr, mais oui, il y avait peut-être aussi le fait que il y avait peut-être qu'on prend le pli, vous avez raison, peut-être qu'on prend le pli de la... S'habituer, moi je sais que je ne me suis jamais habituée.
Je tenais à savoir si la mortalité exceptionnellement élevée de nos compatriotes était due à des conditions de vie plus dures que celles des autres nations ou à une résistance physique inférieure. J'en ai discuté bien souvent, spécialement avec mes camarades tchèques d'Urfir. Pour ces dernières, la conclusion était évidente. C'était une fragilité intrinsèque de notre peuple. Elle faisait cette constatation avec tristesse, mais sans surprise, car, comme toute l'Europe centrale et orientale, elles avaient été soumises pendant des années exclusivement à la propagande allemande intensive sur la prétendue dégénérescence de la France, sans que jamais aucun démenti, aucune réponse de nous y soit faite.
Est-ce que ça a complété votre expérience, ça vous a fait réfléchir d'une façon différente sur l'ethnologie?
Ça m'a fait réfléchir sur quelque chose qui va bien au-delà de l'ethnologie, qui est le rapport dominant-dominé, qui est le problème de la situation, qui est les problèmes du pouvoir. J'ai eu en effet l'expérience d'un grand mélange de peuples, et aussi, dans ce grand mélange de peuples, de la solidarité qui naît d'une langue commune, ça c'est évident, c'est certain. Mais j'ai eu beaucoup d'amitié dans toutes les populations étrangères qui étaient représentées au camp. J'ai eu des amis tchèques, des amis polonaises, des amis allemandes. Qui étaient des femmes d'un grand courage et d'une grande valeur. J'ai eu vraiment aussi l'expérience d'une grande admiration pour ce qu'on peut appeler la valeur humaine.
La différence des conditions de vie explique dans une grande proportion la différence du taux de mortalité de chaque nation, mais les réactions propres à chacune de ces nations ont sûrement joué un rôle. Presque tous les peuples d'Europe étaient représentés à Ravensbrück et mis à nu par la catalyse du camp, anglaise, suisse, espagnole, américaine, et italienne souvent arrêtée en France et parlant français, se confondaient dans la masse des Françaises et ne réagissaient pas différemment. Les Belges ne s'en distinguaient guère. Les Hollandaises et les Norvégiennes, parlant généralement l'allemand, recevant de nombreux colis, constituaient de petites communautés un peu privilégiées par rapport à nous, mais très homogènes, très dignes, et avec lesquelles nous sympathisions quand les circonstances nous rapprochaient. L'énorme masse des Russes était aussi maltraitée que nous, mais nous restait étrangères, fouillis presque indéchiffrables à force d'être hétérogènes. Il y avait tout un bloc de vieilles paysannes, de je ne sais quelle région, attendrissantes de gentillesse, de complaisance, et continuellement en prière, éprouvant en particulier le besoin de remercier Dieu pour chaque bout de rutabaga qu'elles trouvaient dans leur soupe. Il y avait du tout venant, rafle de village, je suppose. Celles-ci nous émerveillaient par leur agilité à voler, mais elles étaient malheureusement d'une brutalité et d'une férocité non moins surprenantes. Le niveau des filles de l'armée rouge était très supérieur. Le fait qu'elles avaient déjà une organisation et une discipline avant leur internement leur donnait d'ailleurs un gros avantage. Elles étaient saines, propres, honnêtes, assez rudes et incultes. Mais on trouvait cependant parmi elles des éléments intellectuels, docteurs en médecine, professeurs, exceptionnellement sympathiques et qui rayonnaient de bienveillance et de bonne volonté. Ce que nous aimions chez elles, c'était leur esprit de résistance vis-à-vis des Allemands.
Votre idée selon laquelle, dans tout, quel que soit le peuple, il y a des gens bien et des gens pas bien, a persisté.
Je dirais que j'ai quand même eu un très gros effort à faire, si vous voulez, pour insérer le peuple allemand dans l'harmonie générale des peuples. Mais il est certain que l'image que nous en avions à Ravensbrück était véritablement une image qui ne permettait guère le recul de la réflexion. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu justement, à la fin de ce livre sur Ravensbrück, j'ai tenu à mettre un témoignage qui m'avait beaucoup ému sur la guerre d'Algérie. Parmi les gens que j'ai connus en Algérie, les jeunes filles que j'ai connues, qui étaient des femmes de grande valeur, qui ont été arrêtées et torturées sans aucun motif d'ailleurs, puisqu'elles ont été reconnues innocentes par le tribunal militaire français. Et il y en a une qui m'a raconté dans le plus grand détail son séjour dans la Villa Cesini. Et les tortures et les... dont elle a été le témoin et la victime. Et à ce moment-là, c'est un légionnaire allemand qui était l'infirmier qui a joué les sœurs de charité pendant avec toutes les prisonnières sans aucune exception, avec une délicatesse, une générosité, une bonté de sœur de charité. Et cette sœur de charité, c'était un légionnaire allemand, ancien SS. Il a été dans les jeunesses hitlériennes à 18 ans, comme beaucoup d'autres gamins. Il a été envoyé sur le front russe. Il a été fait prisonnier. Il s'est retrouvé en Sibérie. Et un beau jour, il était à peu près mourant dans son coin de Sibérie. Et il a raconté qu'une doctoresse russe l'avait soigné et sauvé. Alors il est revenu en Allemagne. Il a trouvé sa maison écrasée sous les bombes, son père, sa mère, ses frères morts. Il s'est engagé dans la Légion étrangère. Il a fait la guerre d'Indochine. Il s'est réengagé une deuxième fois. Et il se retrouvait en Algérie, à la Villa Cesini, en train de soigner les femmes qui avaient été torturées par les Français, disons les choses comme elles sont. Et un jour, il a eu une crise d'indignation. Et il a dit une chose qui m'a personnellement bouleversée, c'est « On nous a dit que nous étions des salauds et nous l'avons cru. » C'est ce « nous l'avons cru » qui m'a le plus impressionné. Non pas que ce soit faux, il l'était vraiment. Et alors c'est là que se pose le problème. Comment devient-on SS ? Je parle cette fois dans le sens adjectif du mot, si vous voulez. Non pas comme ethnie, non pas comme... Mais comment devient-on le personnage abominable que représente le SS ? Et est-ce qu'on peut être SS et ne pas l'être ?
C'est-à-dire, tous les peuples de la Terre peuvent être SS.
Alors, apparemment, oui.
Et comment le devient-on ?
Alors, voilà, comment le devient-on ? C'est le problème. Il est certain que, de tous les systèmes que nous connaissons, l'idéologie hitlérienne était certainement la plus abominable de notre époque. Je ne crois pas qu'il y en ait aucune qui soit comparable. J'entends bien qu'il y a eu des systèmes de captivité, des systèmes de répression qui sont abominables dans tous les systèmes politiques contemporains. Je connais assez bien, on est informé à l'heure actuelle de ce qui se passe en Russie, en URSS, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Indochine, nous le savons aussi, ce qui se passe au Chili, nous l'avons su. Disons que les systèmes répressifs sont à surveiller d'extrêmement près dans tous les systèmes politiques qui existent. Mais le système politique hitlérien était en lui-même, en plus de son système répressif, un système abominable.
Quel chemin a parcouru cet ancien imprimeur, Johann Schwarzhuber, avant de venir à Ravensbrück écouter mourir les femmes qu'il tue? Quel chemin a parcouru Joseph Kramer entre sa librairie d'Augsbourg et la fenêtre d'observation de la chambre à gaz de Struthof? Nous ne pouvons que l'imaginer à travers une réflexion, un détail de comportement. Le seul qui se soit exprimé longuement sur lui-même se nomme Rudolf Franz Ferdinand Höss. Il a été commandant d'Auschwitz de mai 1940 à octobre 1943 et sa confession est extraordinaire. Nous savons par lui qu'il était fils et petit-fils d'officiers supérieurs, catholiques croyants et pratiquants, scrupuleux, sérieux, mariés à une jeune fille partageant son idéal, qu'ils eurent 5 enfants et qu'ils les élevèrent tendrement dans les bons principes. Nous savons aussi qu'il a organisé la mort de 4,5 millions de civils, innocents de tout délit. Comme Joseph Kramer, il a fait ses classes. d'abord à Dachau de 1934 à 1938, à Sachsenhausen ensuite, puis à Auschwitz. À Dachau, à propos des bastonnades, il écrit « Lorsque je fus obligé d'assister avec ma troupe à l'application de ces peines, je me suis toujours glissé dans les derniers rangs. Je ne saurais pas expliquer pourquoi l'application de cette peine-là m'inspirait une horreur particulière. J'ai connu à l'époque un autre Blockführer qui partageait les mêmes sentiments et qui disparaissait régulièrement au moment des exécutions, c'était Schwarzhuber. Et il ajoute « Ceux des chefs de bloc qui tenaient à tout prix à assister à ces scènes pénibles étaient presque tous des créatures perfides, brutales, violentes et vulgaires, et se montraient comme telles, même vis-à-vis de leurs camarades et de leurs familles. M'étant soumis à l'inévitable, je n'ai pas voulu tuer en moi les sentiments de compassion pour la misère humaine. Je les ai toujours éprouvés, mais dans la plupart des cas, je n'en ai pas tenu compte. Je voulais avoir la réputation d'un dur. » Höss est alors nommé le 4 mai 1940 commandant d'un petit camp de quarantaine à 60 km de Cracovie, à Auschwitz. Dans le courant de l'été 1941, Himmler le reçoit personnellement pour lui expliquer ce qu'il attend de lui, l'extermination totale des populations civiles de religion juive. « Il y avait certes, dit-il, dans cet ordre quelque chose de monstrueux, mais les arguments qu'il me présenta me firent paraître ses instructions parfaitement justifiées. »
Est-ce qu'il y a différentes manières d'être SS, toujours comme adjectif, selon les ethnies?
Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut les surveiller tous de très près. Et que tous portent en une potentialité extrêmement dangereuse. Mais finalement, il est tout de même assez réconfortant de penser que on trouve aussi le contraire.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire des réactions vigoureuses contre cette espèce de dégradation.
Mais ça, c'est plutôt l'homme, enfin.
Ouais, peut-être bien. Mais nous allons y revenir à ce problème de l'homme et de l'humain.
Qu'il existe des races féroces ou des races perverses m'a toujours paru absurde, même en 1945. Quand je dis race, j'entends des hérédités comparables. Mais il est vrai que certaines sociétés admettent certaines férocités. Et entre 1939 et 1945, j'ai cédé comme beaucoup à la tentation de formuler des différences, des mises à part. Ils ont fait ceci, nous ne le ferions pas. Aujourd'hui, je n'en pense plus un mot. Et je suis convaincu au contraire qu'il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri du désastre moral collectif dont ce livre ne décrit qu'un secteur. Qu'on ne me fasse pas dire cependant que d'autres désastres moraux contemporains sont identiques aux désastres allemands de la période hitlérienne. Aucun ne l'égale. Mais il n'en est pas moins vrai qu'entre l'Allemagne de Hitler et les grands peuples démocratiques contemporains qui adoptèrent plus ou moins temporairement ces méthodes, la différence est surtout statistique. Les grands pays démocratiques n'ont pas été complètement contaminés par le secteur criminel qu'ils ont favorisé.
Quand vous avez quitté Ravensbrück à la Libération, est-ce que le monde était différent pour vous? Est-ce qu'il était éclairé différemment et définitivement?
Oh, pendant une période assez longue, je dirais que toute cette période-là, je ne dirais pas que je l'ai oubliée, mais je m'en souviens mal et d'une façon ténébreuse, en quelque sorte. J'ai été cassée pendant des années.
De désespoir?
Peut-être, oui. D'épuisement vital aussi, de dégoût de vivre, et tout ce que vous voudrez, etc. Il faut... C'est très difficile de... Enfin, on peut... Passons aux étapes suivantes.
Vous avez quand même repris goût à la vie. Vous êtes retourné en Algérie.
Ah non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Bon. J'ai commencé, parce que j'y étais obligée, à m'occuper d'abord du problème des crimes de guerre allemands. N'est-ce pas ? Et pendant une certaine période, j'ai donc mis au net tout ce que je pouvais mettre au net dans les documents qui me semblaient les plus nécessaires, en particulier l'état civil de nos camarades. J'ai à ce moment-là fourni un certain nombre de grilles pour essayer d'éliminer le mensonge aussi. Parce que naturellement, il y a eu tout de suite après notre captivité, il y a eu des quantités de choses qui ont été écrites, dont quelques-unes étaient tout à fait inexactes. Et c'était assez agaçant pour ceux...
Inexact pourquoi ? Pourquoi ?
Pour des tas de... Par manque d'esprit critique, d'une part, goût de l'exagération, ou simplement des faux témoignages, il y en a eu aussi. J'en connais quelques cas.
On sous-estimait beaucoup ce qui s'était passé, non ?
Mais oui, bien sûr. Ça dépendait. En réalité, il y avait les deux. Il y avait les gens, ceux qui sous-estiment, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui croient que ce qu'ils ont vu représente un ensemble et une chose générale, et puis ceux qui n'ont rien vu du tout et qui font semblant, qui racontent des choses qu'ils n'ont pas vues et qui inventent. Tout est possible. C'est pourquoi une des choses qui m'avait préoccupée tout de suite était de la critique du témoignage. Et essayer de recouper chaque opinion, chaque vision, y compris les miennes.
Et pour ça, vous vous serviez de votre formation scientifique?
Oui,
quand
bien
même.
Entendu. Mais je vous dirais que n'importe quelle formation scientifique dans ce domaine-là aurait eu exactement les mêmes résultats. Un historien, il se trouve que j'étais ethnologue, mais un historien aurait agi exactement de la même façon.
Ravensbrück. C'était un entretien de Germaine Tillon avec Claude Frère. Texte extrait de Ravensbrück, paru aux éditions du Seuil, lu par Nathalie Nerval. Groupe de réalisation, Robert Gachassin, Marie-Hélène Lacoste, Michel Mauger.
Cette émission a été diffusée la première fois, le 17 juin 1975, sur France Culture.